allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. En France, on estime qu'1 200 000 personnes pourraient être touchées par cette pathologie ou par une maladie apparentée. Je parle de la maladie d'Alzheimer. 750 000 personnes aujourd'hui sont diagnostiquées, soit 23% de la population de plus de 80 ans, dont une grande majorité de femmes. Pour tout un chacun, Alzheimer, du nom du médecin allemand qui découvrit cette maladie en 1906, connote surtout la perte de mémoire. À titre personnel, je me souviens du jour où nous avons compris que ma grand-mère perdait les cartes, comme on dit chez nous, de manière un peu plus sévère que son âge pouvait expliquer. 7000 cellules cancéreuses qu'il avait, nous a-t-elle répété une dizaine de fois en une heure en parlant d'un voisin malade. Un mois et plusieurs tests plus tard, le verdict tombait, Alzheimer stade 2 d'une maladie dégénérative qui en compte 3. J'ai découvert par la suite que si la perte de mémoire était certes le symptôme le plus marquant, il n'était hélas pas le seul. Troubles du comportement, des gestes, du langage. En cause, des lésions du système nerveux central dues au dysfonctionnement de protéines essentielles aux neurones et à l'apparition de plaques ou agrégats sur ces mêmes neurones. Notre invité est chercheur à l'Institut de génétique moléculaire de Montpellier. Avec son équipe, ils viennent de découvrir qu'une substance présente dans une plante était capable de protéger les neurones des patients atteints d'Alzheimer. Il nous explique tout dans les 20 prochaines minutes. Fabrice Caudron, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans Allume la science.
Merci.
Pas de risque de l'oublier, ça c'est sûr, avec moi comme chaque semaine pour mener cette interview, Aline Perriot. Bonjour Aline.
Bonjour.
En seconde partie d'émission, c'est Elisabeth Denton, conservatrice de bibliothèque, qui nous fait découvrir le fonds patrimonial Charles Flahault. Oui, on dit conservatrice, oui.
Alors, elle a dit conservateur.
Alors, moi, je dis conservatrice.
Conservatrice. Voilà.
Donc, ce sera le fonds patrimonial Charles Flahault. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56...
Alors, Fabrice Caudron, donc comme je le disais, cette émission, on la commence toujours par une émission, par une question de base. Donc, de manière très générale, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la maladie d'Alzheimer ? Est-ce que vous pouvez nous décrire les mécanismes qui expliquent son apparition ?
Alors, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, c'est une dégénérescence essentiellement des neurones qui arrive au cours du temps, donc en général chez des personnes assez âgées. Et cette dégénérescence est liée à ces protéines amyloïdes qui vont former des plaques, mais qui sont toxiques pour les neurones et qui vont entraîner leur mort. Exactement comment ça fonctionne, c'est quelque chose qui est encore inconnu. Il y a beaucoup de recherches là-dessus et on espère pouvoir y contribuer.
Et du coup, ces protéines, on ne sait pas pourquoi elles forment des agrégats qui deviennent toxiques pour les neurones ?
Alors, on sait pourquoi un peu, c'est qu'elles changent de forme, en quelque sorte. C'est des protéines qui ont la capacité d'acquérir cette nouvelle forme qui va se transmettre aux mêmes protéines et qui va prendre longtemps, mais lentement, entraîner la toxicité et la mort des neurones.
Et est-ce qu'on sait du coup pourquoi ça provoque ça chez certaines personnes et pas chez d'autres ?
Alors ça, on sait peu de choses encore là-dessus. On sait qu'il y a des terrains génétiques qui peuvent être présents ou encore des modes de vie, mais c'est quelque chose qui est encore assez peu connu.
Alors, vous avez identifié dans l'étude dont on va parler aujourd'hui, vous avez identifié qu'un extrait de plante pouvait protéger les neurones de ces agrégats. Donc cette plante, elle s'appelle l'ophioglossum. Vous pouvez nous en parler un petit peu de cette plante, rapidement ?
Alors c'est une plante qui... Alors tout d'abord, ça a été identifié vraiment par une start-up, donc une entreprise suisse qui travaillait vraiment sur cette identification. Et c'est une plante qui est utilisée dans la médecine traditionnelle chinoise, notamment pour les piqûres pour traiter les piqûres de serpents.
D'où son nom ? Elle a un nom
Elle a un nom. Le nom de cette plante, donc c'est Ophioglossum, c'est langue de serpent. En fait, ça ressemble à une langue de serpent. Et on peut la trouver partout, même aux abords de Montpellier.
D'accord. Et comment vous avez eu l'idée de vous diriger, de tester cette plante, en fait ?
Alors, l'idée générale, au début, c'était vraiment d'essayer de comprendre quelle plante pouvait avoir un effet en utilisant les plantes de la médecine traditionnelle chinoise. Et c'est de prendre l'exemple en fait, de Yu Yutu, qui a eu un prix Nobel, qui avait découvert l'artémisine pour traiter la malaria.
Et est-ce que vous avez trouvé quel composé, quelle substance particulière dans cette plante lui confère ce pouvoir protecteur ?
Alors, on avait eu de la chance, effectivement. C'est-à-dire que certaines personnes avaient pu, dans un travail précédent, identifier tous les composants de ces extraits de plantes, et notamment la molécule qui nous a intéressé le plus, qui est le tripentadécanoïne. Donc, le tripentadécanoïne...
Vous le dites très bien, nous, on s'est entraînés et tout.
C'est que ça fait des années qu'on est obligé de le prononcer. Et cette molécule... est capable de récapituler les effets de l'extrait de plante. Il est possible qu'il y ait d'autres molécules dans l'extrait de plante qui vont avoir un effet encore plus fort, puisqu'on n'a pas vraiment comparé ces deux modes d'action. Mais le tripentadécanoïne a été vraiment très intéressant, puisque c'est une molécule qui est assez simple à obtenir.
Et comment vous avez fait pour identifier que c'était celle-là et pas une autre, même s'il y en a d'autres, mais que celle-là avait un pouvoir protecteur?
Alors là, on a fait des expériences assez simples où on a cultivé des neurones et on a exposé ces neurones à ces protéines toxiques qui vont entraîner leur dégénérescence, et en les traitant ou pas avec ce tripentadécanoïne. Et on peut noter que la survie de ces neurones est bien plus grande lorsqu'ils ont été exposés au tripentadécanoïne.
Juste pour préciser, c'est un lipide, c'est ça, ce tripentadécanoïne?
C'est un petit lipide, tout simple. C'est vraiment une structure qui est extrêmement simple, oui.
Alors, pour étudier donc ce fameux tripentadécanoïne, j'ai réussi,
bravo,
mais j'ai été lentement, vous avez utilisé la levure de boulanger comme modèle d'étude. Alors, on n'entend pas souvent parler de ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce modèle?
Voilà, donc ça, c'est vraiment l'expertise de mon laboratoire. Nous utilisons la levure comme modèle d'étude de la mémoire cellulaire et du vieillissement. Et en fait, on sait que pendant le vieillissement de la levure, ces cellules... accumulent aussi des agrégats de protéines qui sont assez toxiques. Et donc nous avons utilisé ce modèle et nous avons pu voir que le tripentadécanoïne, comme pour les neurones, protégeait la levure et en fait faisait vivre ces levures plus longtemps. Et à partir de là, c'est un outil simple qui ne nécessite pas beaucoup de moyens et sur lequel on a pu faire tout un tas d'études génétiques et pour identifier au final quelles pourraient être les cibles de ce lipide.
Et alors, au final, comment fait ce lipide pour protéger les neurones? Qu'est-ce que vous avez mis en évidence comme mode d'action?
Alors, ce que nous avons découvert, c'est que dans la levure, le tripentadécanoïne entraînait induisait l'expression d'un certain nombre de gènes. Et celui que nous avons commencé par étudier, et celui qui nous intéressait le plus, c'est YHB1 chez la levure, qui est une protéine qui est connue pour protéger contre les dommages qui sont faits sur des protéines.
Alors justement, donc cette protéine YHB1, elle est aussi présente chez l'homme, c'est ça? Mais comment elle s'appelle chez
l'homme?
Voilà,
donc c'est la neuroglobine chez l'homme et chez tous les mammifères. Et en fait, c'est pour ça qu'on s'est intéressé à YHB1, puisque c'est vraiment une protéine qui est conservée dans l'évolution et qu'on s'est dit que s'il y avait un mécanisme parallèle entre la levure et les neurones, c'est bien parce que les protéines étaient conservées. Donc on s'est vraiment intéressé à celui-là pour essayer d'avoir un lien avec les neurones.
Et donc après ces études sur la levure, vous avez testé l'efficacité du tripentadécanoïne chez la souris, puis chez les singes rhésus pour des pathologies de la vision. Pourquoi est-ce que c'est ces maladies-là que vous avez choisi d'étudier et non pas la maladie d'Alzheimer?
Alors dans ce cas-là, il y avait un choix de simplicité, c'est-à-dire que ce sont des modèles de dégénérescence qui sont assez simples. Mais ce dont on se rend compte à l'heure actuelle, c'est que beaucoup des dégénérescences, que ce soit de la rétine ou bien des neurones, sont liées à des problèmes de gestion de ces agrégats protéiques par les cellules, qui deviennent toxiques. Donc on a utilisé la rétine parce que c'est un modèle simple chez la souris, qui ne prend pas très longtemps à faire, parce que développer des modèles d'Alzheimer dans la souris, c'est beaucoup plus long. Ou chez les singes, on a eu la chance d'avoir accès à deux singes rhésus qui avaient une maladie génétique. Donc on pouvait essayer de traiter les yeux de ces singes.
Et vous pouvez du coup extrapoler que si jamais cette molécule elle est efficace contre ces pathologies de la vision, elle pourrait l'être également contre la maladie d'Alzheimer?
C'est notre espoir. Et ce sera les recherches futures qui le montreront.
Moi, j'ai une toute petite question. Un singe rhésus, qu'est-ce que c'est? C'est une variété de singe?
C'est un macaque.
D'accord.
Okay. Voilà, on connaît plus le macaque. Oui, c'est une variété de singe.
Et donc, quels résultats vous obtenez en les traitant avec ce lipide? Donc,
de tripentadécanoïne de...
Alors, dans les deux cas, ce qu'on a pu voir, c'est que normalement, chez les souris, chez le modèle de souris ou chez ces singes, on a une diminution de l'épaisseur d'une certaine couche de cellules dans la rétine qui induit la dégénérescence et finalement la perte de vue. En traitant avec le tripentadécanoïne, les souris et les singes ont pu retrouver une épaisseur normale de la rétine et donc conserver leur vue plus longtemps.
Donc c'est pas juste que ça limite la progression des maladies neurodégénératives, ça permet éventuellement de les guérir?
Peut-être, j'irai pas jusque là pour le moment, c'est une possibilité effectivement.
On a Mais vu, en l'occurrence, c'est ce que vous avez observé sur ces modèles de maladies de la vision. Ils ont, enfin je sais pas si le guérir est le terme adéquat, mais non seulement ça a arrêté la dégénérescence, mais en plus ils ont récupéré, vous le disiez, cette couche cellulaire, c'est
exactement,
ça ?
Exactement. On pense que l'effet va être beaucoup plus important que seulement sur des neurones ou sur des cellules qui ne se divisent pas, mais va permettre en fait de relancer la neurogénèse par exemple, ou certaines choses comme ça.
Il va vraiment falloir apprendre à dire tripinta des canoïdes parce que ça a l'air prometteur tout ça. Et du coup, oui, vous avez aussi découvert que ce même extrait, il diminue également la toxicité d'agrégats d'autres protéines qui sont impliquées dans la maladie de la vache folle et dans la maladie de Parkinson. Est-ce que vous y attendiez à cette découverte-là ?
Alors, pas vraiment, parce que sur certains agrégats, c'était quelque chose pour lequel nous pouvions l'attendre. Par exemple, sur les agrégats qui sont liés à la maladie de Parkinson, parce qu'il y a beaucoup de liens entre ces deux types de maladies. Par contre, pour la maladie de la vache folle, ça a été un peu plus une surprise, puisqu'ici, on a affaire à quelque chose qu'on appelle un prion, qui est vraiment une protéine qui est très agressive et toxique, et l'effet du tripinta-des-canoïdes était assez flagrant. Donc ce sont des choses qu'on essaie de pousser un peu plus, puisque ça pourrait avoir une certaine protection contre les maladies à prion.
Et pourquoi est-ce que vous avez testé ces deux maladies-là ? Ça veut dire que vous en testez plein une fois que vous trouvez comme ça un lipide qui est efficace sur une maladie, ou il y avait des raisons de cibler la maladie de Parkinson et la maladie de la vache folle ?
En fait, en regardant aussi les effets sur la levure, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ces agrégats protéiques de la levure ou des neurones sont assez différents de façon structurelle. Donc on s'est focalisé sur se dire que peut-être l'effet n'était pas spécifique à ces agrégats, mais était un effet global de réponse de la cellule ou du neurone à répondre à une agression par des agrégats toxiques. Et effectivement, c'est ce qu'on a trouvé avec la neuroglobine ou avec YHB1, c'est que c'est une réponse globale de la cellule pour essayer de contrecarrer ces effets toxiques.
Alors, donc, vous dites que ces travaux donc, ouvrent de nombreuses perspectives afin de mieux comprendre le vieillissement cellulaire et de possibles traitements donc, contre les maladies dégénératives. Aujourd'hui, est-ce qu'on dispose de traitements efficaces ?
Non. Pour la maladie d'Alzheimer ou pour les neurodégénérescences, il n'y a pas de traitement efficace, malheureusement. Certains traitements ont été mis sur le marché il y a peu, mais on sait qu'ils ne vont pas être efficaces. Donc, il y a vraiment une recherche à faire pour trouver de nouveaux médicaments ou alors des combinaisons de médicaments qui nous permettront peut-être un jour d'arriver à traiter ces maladies ou au moins
c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'arrive même pas à les freiner pour l'instant.
Il y a quand même des freins qu'on arrive à mettre mais qui sont pas encore satisfaisants.
Et justement, combien de temps est-ce qu'on peut imaginer, combien de temps est-ce qu'il faudrait, d'après vous, si ces travaux continuent et sont concluants, pour qu'éventuellement un médicament basé sur le tripinta des canoïdes soit mis au point et disponible pour les patients ?
Je pense qu'il y a plusieurs biais pour cela. Le premier, ça serait effectivement de passer dans des études cliniques.
Parce que là, il n'y a pas eu d'études chez l'homme du tout dans vos travaux.
On est resté sur
levure et animaux.
Exactement. Pour le moment, non. La deuxième chose, c'est d'intéresser finalement l'industrie pharmaceutique, par exemple, pour pouvoir financer ces recherches, qui va être un enjeu clé pour pouvoir développer ça.
Pour le moment, on ne l'a pas. Vous travaillez en collaboration justement avec une start-up, c'est bien ça
Voilà. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que eux peuvent faire plus facilement, puisque c'est vraiment leur travail, c'est d'amener ce produit jusqu'au marché, que ce soit sous forme de médicaments ou alors sous forme d'alicaments. Pour nous, c'est plutôt le côté recherche qui nous intéresse et de pousser un peu, voire d'essayer de trouver de nouvelles molécules qu'on pourra offrir à l'industrie pharmaceutique.
Alors, je n'ai pas précisé que vos travaux avaient été publiés dans Aging Cell, c'est bien ça ?
C'est bien ça.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup Fabrice Caudron d'être venu dans Allume la Science pour nous parler de ces travaux. C'était très intéressant. Et on passe maintenant à notre séquence reportage. Et cette semaine, c'est Aline qui nous emmène sur le campus Triolet dans les coulisses de la BU Science, c'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça, Lucie. Et plus exactement dans la réserve qui recèle quelques trésors, parmi lesquels le fonds patrimonial Charles Flahaut, une collection de plaques et tirages photographiques réalisés à l'occasion des sorties sur le terrain du célèbre botaniste. Et c'est Elisabeth Denton, conservateur de bibliothèque, qui nous plonge dans ses archives.
Je m'appelle Elisabeth Denton, je suis conservateur de bibliothèque et j'ai pris très récemment la responsabilité du service des collections patrimoniales documentaires de l'Université de Montpellier. On est à la fois des bibliothécaires, mais on s'occupe de collections patrimoniales, donc des collections anciennes, rares, précieuses. Les réserves de nos collections anciennes se trouvent dans les différentes BU de l'université. Mais on fonctionne pour la valorisation et pour tous les gros projets de conservation avec la direction de la culture scientifique et du patrimoine historique qui est dirigée par Caroline Ducourau.
Et là, donc, on est sur la BU, la Bibliothèque universitaire des sciences de Triolet. On n'est pas dans l'espace public, on est où exactement?
Alors, on appelle ça une réserve. C'est un endroit, un lieu de stockage pour les collections qui n'est pas accessible. C'est vrai qu'on a pas mal oublié cet aspect-là des bibliothèques. Autrefois, les collections n'étaient pas accessibles. Il fallait passer par le personnel pour demander les ouvrages qu'on voulait consulter. Donc pour la partie ancienne, c'est toujours comme ça qu'on fonctionne, pour avoir des normes de conservation respectées qui soient vraiment optimales pour les collections. Donc là, on se trouve face à l'armoire où se trouve cette collection un peu particulière, qui est la collection photographique Flao.
Alors Flao, qui c'est ce monsieur ?
Flao, c'est un botaniste qui a été professeur de botanique à l'université de Montpellier.
C'est Charles Flao ?
Charles Flao. C'est le fondateur de l'Institut de botanique qui a été inauguré en 1890. Et lors de ses travaux sur le terrain avec ses élèves, il a recouru au service de photographes qui ont documenté ses sorties sur le terrain et tous les travaux qu'il faisait avec ses étudiants. Et donc dans cette armoire, on a conservé cette collection qui est arrivée à la Bibliothèque universitaire des sciences en 2000. On a les tout premiers clichés qui dateraient de 1879, mais on est plutôt autour de 1890, 1900, 1910. Voilà, c'est le gros de la collection. Et donc, comme c'est les débuts de la photographie, il y a beaucoup de ces documents qui sont en fait des plaques photographiques sur verre.
Est-ce qu'on peut en regarder quelques-unes pour voir à quoi ça ressemble?
Bien sûr. Normalement, pour manipuler des collections patrimoniales anciennes papier, on n'utilise pas de gants. On se lave très bien les mains avec de l'eau et du savon et ça suffit amplement. Il y a une exception à ça, ce sont les objets en métal, métallique, donc les ouvrages qui pourraient avoir des ferrures, comme des manuscrits médiévaux par exemple, avec des ferrures, on les manipule avec des gants, et les plaques photographiques. Donc là, on est dans ce cas-là, donc j'ai enfilé un gant pour pouvoir manipuler.
Et pourquoi ? Pour pas la salir ?
C'est pour, d'une part, ne pas la salir et pour éviter qu'il y ait des réactions chimiques, parce que ce sont des documents qui sont assez instables chimiquement et dont la conservation répond à des normes vraiment très particulières.
Et là, dans la pièce, du coup, il y a des conditions de conservation qui doivent être remplies pour garder les documents ?
Alors oui, il faut éviter trop de lumière, donc c'est pour ça que c'est dans une armoire. Et ça fait plusieurs années qu'on a mis en place un système pour faire une surveillance thermohygrométrique des réserves. Donc c'est ce qui se passe ici depuis plusieurs années. On a des relevés très précis qui sont faits périodiquement avec des graphiques, donc on sait tout de suite s'il y a vraiment un gros problème pour y remédier pour le bien des collections. Alors, ce sont des boîtes sont des boîtes de conservation et qui sont sorties d'un travail de reconditionnement qui a été fait il y a plusieurs années déjà en arrière.
Il y a une légende avec chaque document pour on sait le resituer.
Sur certaines. Je vais vous montrer d'autres choses. Donc ça, c'est les plaques telles qu'elles ont été reconditionnées il y a donc une dizaine d'années. Je vais vous montrer les boîtes d'origine dans lesquelles se trouvent ces plaques. Donc c'est des boîtes de plaques photo, hein, il y en avait beaucoup, les photographes et les fournisseurs de plaques photo fournissaient ça aux photographes. Et vous en avez avec des légendes manuscrites, soit par Flao, soit par le photographe lui-même ou les gens qui ont procédé au classement de cette collection. Donc toutes ces informations ont été reportées dans un inventaire que nous avons et sur lequel nous retravaillons pour remettre en ligne cette collection qui a été numérisée à partir de 2011.
Vous savez combien vous avez en tout de photos ou de documents dans la collection ?
collection FLAO. On a 1870 références. Il n'y a pas que des plaques, il y a aussi des tirages papier d'époque. Et puis lorsque le travail de recensement, d'inventaire et puis d'identification de ces images a été fait en 2011, la photographe qui travaille avec nous sur cette question a fait des tirages plus contemporains où elle retravaillait un petit peu les contrastes, etc. Puisqu'à l'époque, vous vous en souvenez certainement, il y avait eu une exposition à la BU Sciences autour de Charles Flao et du reboisement de l'Aigoual. Et donc, ces tirages faits à cette occasion ont été très utiles pour faire des panneaux d'exposition.
Alors, le reboisement de l'Aigoual, justement, on peut en parler. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on peut comparer ce à quoi l'Aigoual ressemble maintenant avec ce qu'avait fait Charles Flao comme photo à l'époque?
Alors en fait, c'est un projet qui a été fait conjointement entre Georges Fabre, qui était quelqu'un qui travaillait pour l'Office des forêts, et qui se trouvait devant cette problématique terrible des pluies torrentielles qui s'abattaient sur l'Aigoual et qui faisaient des dommages énormes dans les villages en aval à cause du déferlement des eaux. Donc la solution pour lui, c'était de planter des arbres. La problématique de l'Aigoual, c'est qu'il fallait à la fois des espèces qui résistent à la fois à des conditions extrêmes en termes de chaleur, donc très chaud, très sec l'été, et très froid et neigeux, humide, brouillard l'hiver. Donc il a fait des recherches conjointement avec Charles Flao sur cette question, et au point que Charles Flao a fait la démarche de faire des plantations test à l'Ordre de Dieu sur l'Aigoual, qu'on voit toujours actuellement. Donc en fait, c'est un laboratoire de botanique à ciel ouvert pour voir quelles essences pouvaient résister à ces conditions un peu extrêmes. Voilà, et donc c'est une réussite, puisque maintenant l'Aigoual est très verdoyant.
Et du coup, il y a eu beaucoup de photos qui ont été faites à cette occasion-là que vous avez conservées?
Oui, donc il y a des plaques photos qui documentent ces moments-là. Il y a aussi des photos qui documentent des sorties d'étudiants sur le terrain. Mais aussi parfois des choses qui n'ont rien à voir avec l'Aigoual. On a trouvé, parce qu'on retravaille sur le récollement pour que tout soit bien propre et que la base de données puisse être remise en ligne prochainement, on a retrouvé par exemple des photos qui documentent plutôt les parties littorales, genre la Côte d'Azur et des endroits comme ça. Ce qui est un petit peu difficile quand on traite et quand on gère une collection iconographique comme ça, c'est que quand on n'a pas forcément une identification très précise ou structurée de la même manière que celle qu'on pourrait faire de nos jours, il faut essayer de retrouver cette identification. Donc c'est pas simple, donc toutes les photos ne sont pas identifiantes en tant que telles, mais on espère pouvoir le retrouver petit à petit, et donc on est en train de réfléchir à des moyens d'utiliser peut-être l'intelligence collective des internautes pour ce genre de choses.
Parce qu'il y a des photos pour lesquelles vous ne retrouvez pas ni de légende, ni où elle a été prise, ni ce qu'elle illustre.
Ben, c'est ça. Donc il y a des bâtiments, on ne sait pas trop ce que c'est. Par contre, il y a des endroits qu'on retrouve très bien et qu'on reconnaît très bien. C'est par exemple le Jardin des Plantes de Montpellier, où on a beaucoup de clichés qui documentent l'histoire de ce jardin et qui compléteraient très utilement, par exemple, les collections d'archives de l'Institut de Botanique et de tout ce qui concerne la culture, les cultures du Jardin des Plantes, et qui se trouvent actuellement conservées aux archives départementales de l'Hérault. Donc en fait, quand on travaille sur des collections patrimoniales, on a des pointeurs vers d'autres collections qui complètent, et c'est très important pour nous de les connaître pour pouvoir bien aiguiller les chercheurs qui consacrent leur thème de recherche à ces collections.
Oui, c'était ma prochaine question. Là, on parle de la dimension patrimoniale et en termes de recherche, est-ce que c'est des collections qui sont encore exploitées, soit par les botanistes, soit par dans d'autres disciplines?
Alors oui, alors les botanistes, ça les intéresse évidemment. Il y a aussi beaucoup d'historiens, évidemment, d'historiens des sciences, d'historiens de la botanique, des associations qui s'intéressent à l'histoire de l'Aigoual. À tout point de vue, on peut même avoir des historiens qui s'intéressent à l'histoire du bâti rural, l'histoire du costume. Par contre, c'est très compliqué parfois, on n'arrive pas trop à identifier les visages des gens qu'on voit sur certains clichés. Donc, pour pouvoir retrouver un ancêtre, c'est plus compliqué, mais les généalogistes, ça les intéresse aussi. Donc en fait, c'est très diversifié le public qu'on peut avoir et les demandes qui peuvent nous arriver sur ces collections.
Et est-ce que des fois vous les exposez, enfin, à part l'expo qu'il y a eu à la BU, est-ce que le public, le grand public peut les voir ou pas du tout? Par exemple, si elles ont été numérisées, est-ce que c'est en libre accès?
Alors elles étaient numérisées en 2011, elles le sont toujours. On a eu des problèmes techniques qui ont fait que cette numérisation n'a plus pu être conservée en ligne pour des raisons administratives et techniques. Donc là, on est en train de faire tout un travail pour remettre à plat tout cet inventaire, vérifier que entre l'inventaire établi en 2011, le contenu de cette armoire et le corpus des photos numériques, que tout coïncide bien et correspond bien. Et une fois que tout ça sera bien vérifié, ben on va passer à la remise en ligne de ces collections pour qu'elles soient accessibles à tous.
Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Adeline Flock pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science. C'est
une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.